France Musique. Musicopolis. Le concerto pour violoncelle de Schumann, une flambée de créativité. On ne sait jamais exactement ce qui se passe dans la tête d'une personne en train de créer. Comment les idées musicales naissent-elles? Comment passent-elles du cerveau à la plume? Comment s'élaborent-elles peu à peu? Nul ne le sait. Et Schumann, lui non plus, n'aurait sans doute pas pu répondre à cette question. Comment est-il possible, en 2 semaines, de mener à bien un concerto pour violoncelle? Certes, nous ne saurons jamais comment a jailli l'étincelle qui a produit le concerto pour violoncelle de Schumann. Mais néanmoins, pour rendre compte de l'extraordinaire élan de créativité qui le prend entre le 10 et le 24 octobre 1850, nous pouvons nous fier à quelques journaux intimes, correspondances, souvenirs que lui et son épouse Clara ont laissés, ce qui nous permet de suivre quasiment au jour le jour sa vie quotidienne et de connaître au moins l'environnement dans lequel est née cette œuvre. Et pour cela, je vous propose de remonter un mois plus tôt, jusqu'au 2 septembre 1850. Düsseldorf, le 2 septembre 1850. La famille Schumann arrive en ville venant de Dresde. Un long voyage, près de 600 km. La famille Schumann, c'est-à-dire le père, Robert, la mère, Clara, et 5 enfants âgés de 9 à 1 an. Marie, Élise, Julie, Ludwig et Ferdinand. Robert Schumann a beaucoup hésité à accepter cette offre de la ville de Düsseldorf, un poste de directeur de la musique en remplacement de Ferdinand Hiller, qui l'a recommandé. Un poste qui prévoit la direction des 8 à 10 concerts d'abonnement de la saison, les répétitions hebdomadaires de la société chorale et la direction de quelques exécutions musicales pendant la grand-messe dans 2 églises de la ville. Lourde tâche de veiller à la bonne qualité des ensembles et à celle des programmes proposés. Il y a presque un an que Schumann réfléchit à la proposition de Düsseldorf. Il s'est finalement décidé, espérant, sans trop y croire, que ce poste va lui apporter stabilité et reconnaissance. Robert et Clara Schumann ne s'y attendaient pas. Ils font figure de célébrité à Düsseldorf. Un couple d'artistes de renom, c'est ainsi qu'ils sont perçus. Journal de Clara. Le 2 septembre à 7h du soir, nous sommes arrivés à Düsseldorf, qui, contre toute attente, nous semble agréable, plaisamment situé au pied d'une petite chaîne de montagne. nous avons été bien reçus par Hiller et le comité des concerts. Dans la soirée, la société chorale locale a donné une sérénade à Robert. Mercredi 4. Nous courons partout à la recherche d'une maison. Le soir, nous avons eu une grande surprise. Nous étions à l'hôtel en train de dîner. Soudain, on a entendu dans la pièce voisine l'ouverture de donjon. C'était une sérénade que les musiciens du pays offraient à Robert, et celui-ci en fut très agréablement surpris. Ils ont très bien joué, et je pense que Robert pourra faire quelque chose de cet orchestre. Alors que les Schumann cherchent désespérément une maison qui leur convienne à Düsseldorf et qu'ils se sont installés dans un appartement peu pratique en attendant, les festivités qui célèbrent leur arrivée continuent. Le samedi soir, alors qu'ils ont passé la journée dans les cartons à déballer leurs affaires, ils sont invités à une grande soirée en leur honneur avec banquet et bal. Ils sont accueillis par une fanfare de trompettes et pour inaugurer la séance, ils ont droit à un concert entièrement consacré aux œuvres de Robert. On entendra notamment le Paradis et la Pairie. Le séjour à Düsseldorf commence bien. Les gens sont sympathiques, les Schumann sont invités à droite à gauche, ils ont l'occasion de faire de la musique de chambre en bonne compagnie avec les musiciens locaux. Mais tout n'est pas rose. Le déménagement leur a coûté très cher. Et pour le moment, Clara, qui participe d'habitude activement aux finances du ménage, ne gagne rien, puisqu'elle ne donne ni leçons ni concerts. Il faut que les choses s'installent peu à peu. Dès la mi-septembre, Schumann commence à faire travailler la société chorale de Düsseldorf. Il prévoit pour les concerts du mois d'octobre de leur faire chanter « Komala » de Gad et quelques extraits de « Joshua » de Handel. Il est content du chœur, qu'il trouve bien fourni avec des voix de soprano particulièrement fraîches. Thank you. Chez les Schumann, à Düsseldorf, la fin du mois de septembre 1850 se passe en installations, aménagements et tracas domestiques divers. Mais le plus grave, écrit Clara, c'est que le bruit continuel de la rue, les orgues de barbarie, les enfants qui crient, les carrioles, etc., etc., ont mis Robert dans un état d'irritabilité nerveuse qui empire de jour en jour. Il peut à peine travailler et le peu qu'il arrive à faire lui coûte deux fois plus d'efforts. Heureusement, à côté des difficultés de l'installation dans leur nouvelle ville, les Schumann peuvent aussi profiter de la région rhénane. Fin septembre, la famille fait une petite excursion. Clara écrit dans son journal « Dimanche, pour notre agrément, nous sommes allés à Cologne, qui à première vue nous a charmés, et plus particulièrement sa grandiose cathédrale, dont une visite approfondie a dépassé encore notre attente. Après le repas, nous sommes montés au belvédère, d'où nous avons découvert une vue splendide sur le Rhin, et nous avons vu s'étendre au loin les sept montagnes que nous espérons bien visiter. » Après la délicieuse expédition à Cologne, la vie reprend pour les Schumann, avec des rencontres intéressantes et des séances de musique, mais aussi à nouveau des soucis de toutes sortes. « Robert ne peut rien faire à cause du bruit », écrit encore Clara dans son journal. « Et moi, je ne peux pas jouer en raison de diverses obligations domestiques. » Le 4 octobre, nouvelle excursion dans la région. Cette fois-ci, il visite la forêt du Grafenberg, qui jouxte Düsseldorf. Lorsqu'il rentre le soir, des amis se sont occupés de l'appartement. Ils ont changé la disposition des pièces de manière à ce que celle où travaille Robert se retrouve sur l'arrière de l'immeuble. Il va être tranquille, loin du bruit de la rue. Schumann avait eu très peur de ne pas se sentir bien en pays rhénan. Mais il écrit « Je suis très satisfait de ma situation à Düsseldorf et je n'en connais pas de plus désirable tant que ma force physique n'est pas trop mise à l'épreuve, quoique la direction demande des efforts intenses. » Bientôt, il se sent un ardent désir de composer. Le 10 octobre, il entreprend ce qu'il appelle alors une « pièce de concert pour violoncelle et orchestre ». En une semaine, il rédige l'esquisse complète. Dans sa pièce de concert pour violoncelle et orchestre, Schumann, comme toujours, crypte sa partition en introduisant des références à sa bien-aimée Clara. Soit en jouant sur les notes de son nom, puisqu'en allemand les notes se disent A, B, C, D, etc. Soit en utilisant certains intervalles, comme la quinte descendante, qui pour lui la représente. Des concerts d'église que Schumann est tenu par contrat de diriger tombe le 13 octobre, alors qu'il est en plein travail sur le concerto pour violoncelle. Gros stress. Le lendemain, il se plaint d'une affection à l'œil. Les Schumann continuent à avoir beaucoup de monde. Le peintre Theodor Hildebrand et son épouse, le violoniste Wassielewski, que Schumann a fait venir pour mener l'orchestre. On fait de la musique chez les uns et les autres. Le 21 octobre, ils sont chez les Müller. Clara note dans son journal qu'elle les aime beaucoup, peut-être plus que toutes ses autres connaissances. « J'ai joué le dernier mouvement de la sonate en fa mineur de Beethoven. Nous avons eu un petit dîner très gai. Les gens ici sont toujours heureux de se retrouver ensemble, ce que je trouve bien sympathique. » Le 22 octobre 1850 a lieu la première répétition de l'orchestre sous la direction de Schumann. Un orchestre excellent pour une petite ville, note Clara. Et Robert en est très satisfait. Il prépare le concert du 24, le premier de la saison. Au programme, l'ouverture « La consécration de la maison » de Beethoven, le concerto en sol mineur de Mendelssohn, joué par Clara, chant d'avant de Schumann sur un poème de Rückert, prélude et fugue en la mineur de Bach, joué par Clara, et Comala de Gade. Thank you. Le 24 octobre, Schumann achève son concerto pour violoncelle qu'il a écrit en 2 semaines. Le même jour a lieu le premier concert qu'il doit diriger à Düsseldorf. Journal de Clara. Jamais on n'avait vu autant de monde dans la salle. Beaucoup d'étrangers étaient venus d'Eberfeld, de Krefeld ou même de Münster. Robert a été accueilli à son entrée en scène par une triple fanfare de trompettes. L'ouverture de Beethoven a très bien marché. Et quel bonheur pour moi de voir Robert diriger avec tant de calme, joint à tant d'énergie. Ensuite, on a joué le toujours charmant concerto en sol mineur de Mendelssohn. Moi aussi, j'ai été accueillie par les trompettes et saluée de même après l'exécution. Je ne me souviens pas d'avoir jamais reçu des applaudissements aussi unanimes. Après le concerto, on a donné le chant d'avant de Robert. C'est seulement là que j'ai réalisé comme c'est beau. En mars 1851, Christian Reimers, un excellent jeune violoncelliste, s'installe à Düsseldorf. À la fin du mois, on organise un déchiffrage du concerto que Schumann a composé à l'automne. Tout le monde en est satisfait. On ne sait pas pourquoi, l'œuvre ne sera pourtant pas donnée durant la saison de concert, et même pas du vivant de Schumann. Il faudra attendre 1860 pour l'entendre, et beaucoup plus longtemps encore pour que l'œuvre entre véritablement au répertoire. Pourtant, en octobre 1851, un an après la composition, Clara notait dans son journal « J'ai à nouveau joué le concerto pour violoncelle, ce qui m'a donné beaucoup d'heures heureuses. Le romantisme, l'élan, la fraîcheur, l'humour, et en même temps la manière tellement intéressante dont le violoncelle et l'orchestre sont combinés vous emportent. » Et tout chante tellement, avec une telle profondeur de sentiment. Lebhaft, très animé, le final du concerto pour violoncelle et orchestre opus 129 de Robert Schumann. Stislav Rostropovitch au violoncelle avec l'orchestre d'État du RSS dirigé par Gennady Rojdestvensky. Programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Élise Kravets pour les recherches et le site, Manuel Couturier pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.